Simon et Jude. Fêtons aujourd'hui Simon et Jude, donc, qui prennent le pas sur la lecture du lundi de la 30e semaine. Et aujourd'hui, je propose une petite promenade dans ces deux prénoms. Et d'abord, la question. Question à quelques euros, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on fête Simon et Jude ensemble? C'est quoi le motif? Voilà. Alors, évidemment, y a la réponse pourrait se trouver dans les évangiles. Pas dans l'évangile qu'on lit. Si dans l'évangile qu'on lit, oui, on peut la trouver, puisque tout simplement ils suivent quoi. Hein. Simon appelé le Zélote et Jude fils de Jacques. Voilà. Puis Judas Iscariote, lui, son compte, on est au courant pour lui. Donc comme ils sont à côté, bon voilà. Et je me souviens d'un jésuite qui m'avait dit une petite anecdote. Hein. Et en fait, il pourrait y avoir une autre raison beaucoup plus biblique. Jude, en hébreu, se dit Yehuda. Yehuda, c'est la louange. Et Shmaon, qui donne donc Siméon, vient de Shma, en hébreu, ou le même verbe en chaldéen, autrement dit en syriaque, et ça veut dire entendre. Donc l'idée aurait été j'ai entendu et j'ai loué. J'entends et je loue. Bon, voilà. Donc ça aurait fait un beau binôme, si je puis dire. J'entends tout ce que Dieu fait et je le loue. Bon, c'est une hypothèse. Alors il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que vous avez peut-être entendu parler d'un type qui s'appelle Thaddée. Et alors de fait, en Matthieu 10, 3, il n'est pas question de Jude, mais il est question de Thaddée. Alors, d'où est-ce qu'il sort celui-là? Alors, on dit, c'est le même, il n'y a pas le même nom. Alors, quand on a la chance de pouvoir aller regarder un peu ce qui est écrit en syriaque, on voit là où il y a écrit, Jude, fils de Jacques, en Luc 6, et donc en Matthieu 10, il y a écrit... Simon le Zélé, pardon, c'est juste avant, Thaddée, il y a simplement écrit Thaddée, hein, dernier mot du verset 3, en Matthieu 10, Thaddée. Et alors en syriaque, il y a écrit, ou à l'abba, Dethkan, Tadda. Alors, c'est assez curieux, parce que Leb, c'est peut-être que Leb en hébreu ça veut dire le cœur, en syriaque ça se dit Lebba, et donc on gémine le B, hein, le double. Donc, et cœur, Dethkan, Kana ça veut dire nommer ou signifier en syriaque, qui signifie Tadda. Donc on reconnaît Thaddée. Et alors, ce qui est assez... Bon, c'est quand même assez curieux, quoi. Donc, et cœur qui signifie Thaddée. Alors, quel est le rapport entre le cœur et Thaddée? Eh bien, Tada, en syriaque, ça veut dire la poitrine. C'est un petit peu le lieu du cœur, quoi. Donc voilà, donc ça, on a ça en syriaque, et on l'a absolument pas dans nos traductions, hein. Et c'est la même chose donc dans la Vulgate, hein, Thaddeus. Voilà. Alors, c'est un peu curieux tout ça. D'où est-ce que ce prénom est donc venu alors qu'il n'est pas dans les évangiles? Enfin, il est dans l'évangile, mais pourquoi? Pourquoi le cœur? Donc voilà, je vous ai remonté la signification. Donc Thaddée, ça veut dire cœur, poitrine. Ça tombe bien à quelques jours de l'encyclique sur le Sacré-Cœur du Saint-Père, que je vous recommande vivement du reste. Hein. C'est extra. C'est vraiment très 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 profond. On la trouve sur le site du Vatican, puis ça doit être édité ou bientôt édité très, très rapidement. Donc voilà, Thaddée, qui nous parle du cœur, donc. Et alors, l'histoire de Thaddée, c'est qu'il aurait fondé l'église des Dès, donc l'église qui est à Édesse, qui est nestorienne. Donc les nestoriens, c'est pour nous une hérésie. C'est un peu technique, hein, ce que je vais dire, mais tant pis. Les nestoriens, c'est une pensée théologique qui dit que en Jésus, il y a bien deux natures. Une nature divine, une nature humaine, mais que ça n'a jamais été vraiment unifié, quoi. Donc finalement, en Jésus, il y aurait quasiment deux personnes. Voilà. Alors que dans la théologie catholique, il y a une personne en deux natures. Donc voilà, les nestoriens, c'est ça. Ensuite, il ne faut pas trop pousser non plus, parce que dans ce domaine-là, le vocabulaire est pas breveté. Pour certains, nature veut dire hypostase, veut dire personne, veut dire prosopone, veut dire. Enfin bon, bref, c'est assez compliqué. Je suis en train d'étudier ça en arabe, c'est pour ça que je le dis. Et donc voilà. Mais néanmoins, ils se réclament donc de Thaddée. Donc ils y tiennent. Hein. Voilà. Enfin, c'est amusant de voir comment une tradition se construit. Parce que dans une autre langue, on a traduit, on a rajouté un mot. Vous avez ça évidemment, c'est assez drôle du reste. Vous savez, quand on voit souvent dans les évangiles, enfin on voit plusieurs fois Jésus dire jeune fille, je te le dis, lève-toi. Bon, il n'a pas dit je te le dis. Hein. Il a dit cum, ce qui est un impératif, qui veut dire debout. Et Jésus lui dit debout. Voilà, bon. Mais donc on rajoute des petits mots pour essayer de comprendre. Alors ça nous fait dire qu'à l'époque, ils ne savaient plus lire l'hébreu, par exemple. Ben, c'est normal, puisque c'était écrit en grec. Et voilà. Bon. Et là, on nous dit, ben voilà, pourquoi Thaddée? Parce qu'en fait, il s'appelait Lebba. Et voilà. Bon, pourquoi est-ce qu'il s'appelait Lebba? Là, on n'est pas très avancé. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi est-ce que c'est Jude d'un bord et c'est Thaddée de l'autre? Voilà, donc pour ce prénom, et quant à Simon, donc le zélote, hein, les zélotes, ils voulaient rétamer les Romains par la force. Donc là aussi, c'est très intéressant, puisque dans l'évangile du jour, nous avons l'appel des disciples. Et c'est vraiment une bande hyper hétéroclite, quoi. Quand on regarde un peu l'histoire de chacun, alors les fils du tonnerre, mon Pierre qui donne des leçons à tout le monde. Alors sur Pierre, il y a un truc drôle aussi, c'est que en syriaque. Shmaon, ça veut dire sable mouvant. Donc Pierre qui s'est enfoncé dans la mer. Bon, mais on ne sait pas s'il n'y a pas un anachronisme. Hein. On ne sait pas si Shmaon est devenu la définition du sable mouvant parce que Pierre s'était enfoncé, ou si on trouve que ça tombe bien que Pierre se soit enfoncé parce que justement Shmaon veut dire sable mouvant. Bon, ça on ne saura jamais. Chacun tire les draps à soi. Donc c'est assez beau de voir cet ensemble d'apôtres. Hein. Apôtres en syriaque, shliré, ça veut dire les envoyés. Hein. Ceux qui sont envoyés. Et toute cette bande, eh ben, c'est l'origine de l'Église que Jésus est venu, à laquelle il donne naissance à la croix par son cœur ouvert. Et c'est bouleversant si nous avions un peu conscience, pourrions prendre aujourd'hui un peu de temps pour nous dire, mais ces types, ils sont. Enfin, j'aurais pas choisi cela, quoi. Jésus passe une nuit à prier pour choisir 12 types qui vont tous foutre le camp au moment de la passion, sauf Jean, qui est le seul à le dire, du reste. Bon, on n'a pas de raison d'en douter. Voilà ce qu'il a choisi. Donc, ça doit être pour nous une bonne occasion de nous dire. Ce qui compte, c'est pas moi, c'est le choix de Dieu. Autrement dit, après le reniement, Jésus dit à Pierre, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi. Autrement dit, appuie-toi sur le choix que moi je fais. Et ne m'explique pas que je me suis trompé, parce que je ne peux même pas le faire. Voilà. Et dans la suite de ces apôtres, eh bien, il y a évidemment les évêques. Il faut quand même en avoir un petit peu ça à l'esprit, hein. Les évêques sont les successeurs des apôtres, des 12 types, là. Faut avoir ça à l'esprit en théologie, hein, parce que des fois, on ne comprend pas bien, quoi. On a affaire à un apôtre devant un évêque. Regardez-le comme un apôtre. Vous aurez un regard théologiquement juste. Avec les limites qu'ont tous les apôtres. Et puis donc dans cette liste, eh bien, il y a aussi de façon analogique chacun de nous, puisque nous sommes tous appelés, tous envoyés. L'Église est missionnaire par essence. Le jour où elle cesse d'être missionnaire, elle s'effondre. Ce qui n'arrivera pas, mais c'est pas possible. Donc l'Église est missionnaire du début à la fin. À supposer qu'elle ait une fin. Alors terrestre, c'est possible. Mais la Jérusalem céleste, c'est une réalité annoncée dans le Nouveau Testament. Voilà, donc pensons qu'il y a aussi donc chacun de nous, hein, et que nous participons à cette construction qui est mentionnée dans Éphésiens. On a déjà vu ce texte il n'y a pas longtemps. Et dans cette construction, il y a donc Jésus, hein, qui est la pierre angulaire, et puis donc ces apôtres-là, qui se sont devant lesquels Jésus a guéri et chassé des esprits pour que nous puissions le refaire chacun à notre place. Hein, l'évêque a un pouvoir particulier sur le diable, que nous n'avons pas. Faut pas jouer avec ça, à moins d'être délégué par l'évêque, mais sinon non. Et voilà. Et vous verrez que, vous voyez que l'évangile finit par la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ça, c'est. Je vais finir là-dessus. Est-ce que vous y pensez quand vous allez communier? Est-ce que quand vous recevez le corps du Christ, vous pensez à cette phrase. C'est vraiment le moment d'y penser aujourd'hui, hein. Si jamais vous avez la grâce de pouvoir aller à la messe, une force sort de lui. On reçoit ce qu'on attend, hein. Si vous recevez Jésus pour lui faire la liste de toutes vos demandes, eh bien c'est pas pareil que si vous commencez par lui dire merci d'être là, c'est génial que tu sois venu pour moi. Et je sais que tu apportes avec toi des guérisons dont j'ai pas idée. Alors peut-être on peut les lui demander. Ce sera peut-être pas celle qu'on attend. Mais c'est pas possible qu'ils guérissent pas, vous voyez. C'est comme si on voulait que le soleil éclaire pas, quoi. On essayait de mettre le soleil dans un sac, juste pour rire. Ben, c'est à peu près la même chose avec l'Eucharistie, sauf qu'elle est pas. Voilà. Sauf que c'est Dieu, quoi. L'Eucharistie ne peut pas ne pas faire d'effet. C'est même pas possible. Par contre, nous pouvons ne pas en bénéficier parce que nous empêchons ces effets, parce que nous ne les attendons pas, parce que nous ne sommes pas préparés. Voilà, ça, nous avons cette triste capacité. Mais voilà, pensez à ça, le soleil ne peut pas ne pas briller, c'est même pas possible. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil, l'Eucharistie. Pensons que nous pouvons être guéris. Il y a des guérisons. À Lourdes, la plupart des guérisons se font pendant la procession eucharistique. Là, les gens ne reçoivent même pas le corps du Christ. C'est un rayonnement de l'hostie. Voilà, pensons-y. C'est une vérité, c'est une réalité. Et Jésus est toujours là au milieu de nous. Cherchons à le toucher par la foi, afin qu'il nous guérisse et qu'il nous envoie toujours plus annoncer le mystère merveilleux de son amour et de son sacré cœur.